Vous êtes sur RTL.
Le grand jury, RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Philippe Martinez.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour une heure pleine d'émissions. À mes côtés aujourd'hui pour vous interroger, Marion Mourgue du Figaro. Bonjour Marion.
Bonjour.
Et Amélie Carouer de TF1 LCI. Bonjour, bonjour. Amélie. Cette émission est en direct, bien sûr, vous le savez, jusqu'à 13h. Toutes vos questions sont les bienvenues. Hashtag Le Grand Jury, elles sont relayées en direct à la fin de cette émission par Marie-Pierre Haddad. Alors Philippe Martinez, en focalisant l'attention sur notre santé, le coronavirus gèle le débat politique et paralyse toute contestation sociale. Pourtant, avec la crise économique qui s'installe et son corollaire, l'accroissement de la pauvreté et du chômage, les motifs de colère ne manque pas. Avec la CGT que vous dirigez depuis 6 ans, bientôt, ce sera début février, vous tentez bien maintenant de mobiliser dans la rue. À nouveau, jeudi prochain, pour les services publics et contre la précarité, mais à chaque fois, sans grand succès. Alors, les Français sont-ils plus préoccupés, et on peut le comprendre, par leur propre sort plutôt que par une lutte collective? Ou sont-ils plus résilients qu'on ne le croit face aux difficultés actuelles, en remettant à plus tard les revendications sociales? Ou est-ce que ce sont vos mots d'ordre, Philippe Martinez, qui ne sont pas les bons, qui ne sont pas les plus adaptés, par exemple sur le télétravail? Quelle est exactement votre position? Nous y reviendrons bien sûr dans cette émission, mais nous parlons tout de suite du confinement, ou plutôt du non-confinement qui a été décidé par le Premier ministre et par le Président de la République. Première question, Marion Mourgue.
La décision d'Emmanuel Macron vendredi soir de ne pas confiner a surpris beaucoup de monde. Est-ce que vous dites aujourd'hui ça vaut le coup de tenter de ne pas reconfiner, ou est-ce que vous jugez que l'exécutif joue avec la santé des Français ?
Moi j'écoute, je suis pas le mieux placé pour parler des questions de santé, j'écoute les scientifiques, les médecins, et j'ai cru comprendre que le monde scientifique était plutôt favorable à un confinement. Nous pensons à la CGT qu'il y a besoin de visibilité, de lisibilité dans les décisions du gouvernement. Le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis le mois de mars, les décisions sont parfois contradictoires, et donc il y a besoin d'y voir clair sur la suite des événements, sur la situation actuelle et sur la suite des événements. Nous avons, par exemple, nous sommes interrogés sur le fait que certains lieux étaient ouverts, d'autres fermés, alors que les conditions sanitaires pouvaient être respectées de la même façon. Je pense, par exemple, au sport d'hiver. On a vu samedi que, enfin, je l'ai vu sur les différentes chaînes, que samedi, à l'annonce de la veille du Premier ministre, avait fait une ruée dans les centres commerciaux. Je ne sais pas si les gestes barrières étaient respectés. En tout cas, dans les images que j'ai vues, il y avait beaucoup de monde. Vous voyez, donc il y a besoin de cohérence. Et puis, le Premier ministre aurait pu dire, le Président de la République aurait pu dire, voilà, on se reconfine pas tout complètement, mais on fera un point d'étape, jeudi prochain.
C'est un petit peu l'idée, Philippe Martinez, c'est de on se laisse une chance, on attend de voir. En gros, ça induit une clause de revoyure.
Mais on peut pas annoncer des choses, la veille pour le lendemain. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une visibilité. Quand est-ce qu'on fera un nouveau point jeudi prochain, et quelles mesures on envisage si ça ne se passe pas tout à fait? Parce qu'il y a besoin de s'organiser.
Vous vouliez des échéances, quoi.
Oui. Des échéances et puis des points de visibilité sur ce qui pourrait se passer. Parce qu'il faut organiser sa vie. Enfin, on l'a bien vu avec le couvre-feu à 18h, ça bouleverse complètement la vie des citoyens. Donc ça, c'est des choses qu'on pourrait... on pourrait proposer des alternatives ou dire voilà ce qu'on envisage, de façon à ce qu'on puisse se préparer le cas échéant.
Sur cette idée, dans le fond, de se dire on se donne vraiment toutes les chances, on attend tout ce qu'on peut attendre pour laisser un petit peu d'espace et d'oxygène aux Français, et en plus cette idée de contrat moral avec les Français, comptez sur eux, vous en pensez quoi?
Mais effectivement, la situation elle est compliquée, elle est grave. Je pense, par rapport à ce que vous disiez en introduction, que les Français sont aussi inquiets sur leur santé que sur leur emploi, sur leur devenir. Donc je comprends qu'il y ait des situations qui sont difficiles à gérer. Mais il y a besoin d'expliquer les différentes hypothèses qu'on pourrait faire à l'avenir. Voilà.
Mais est-ce que vous dites, comme vous le disiez début octobre dans les Échos, il faut privilégier la santé sur l'économie. Est-ce que vous dites toujours ça ou est-ce que vous dites aujourd'hui, il faut aussi apprendre à vivre avec le virus, ce que nous dit en quelque sorte le président de la République ?
Il faut toujours privilégier la santé avant tout. Et effectivement, prendre en compte, parce que la santé, c'est aussi la prise en compte des problèmes liés au confinement, par exemple. On voit qu'il y a de plus en plus de dépressions, voire des suicides, donc ça, c'est aussi la santé. Donc ça fait partie des choses qu'il faut intégrer dans les mesures qui sont annoncées.
Et c'est ce qu'il fait, donc c'est une bonne chose.
Ah bon, j'avais pas remarqué.
C'est l'un des facteurs de sa décision, c'est cette détresse psychologique.
Oui, mais je veux revenir sur ce que je disais. Normalement, on a eu l'épisode des masques, on va oublier, ça fait un an déjà, mais enfin, tout le monde s'en rappelle à peu près. On a l'épisode des vaccins aujourd'hui. Il fallait pas commencer trop vite et trop tôt. Bon. Et puis, sous la pression de ce qui se faisait ailleurs et du corps médical, on a accéléré. Aujourd'hui, Il n'y a plus de vaccins, en tout cas il y a une pénurie de vaccins. Tout ça fait que on se demande où on va, qui décide, comment on prend les décisions. Vous voyez ?
Mais justement à la CGT, est-ce que vous comprenez que les Français ont envie de travailler, ont envie d'avoir un semblant de vie normale et que cette santé psychique des salariés réclame aussi de laisser un peu.
Je viens de vous le dire, on comprend même que les 6 millions de privés d'emploi aient envie de travailler, vous voyez ? Donc on a des propositions.
Est-ce que vous ne dites pas justement ça va dans le bon sens,
mais
même si on n'a pas le calendrier futur ?
Il faut des mesures cohérentes qui ne divisent pas. Je vous ai dit pourquoi on laisse ouvert, on a laissé jusqu'à maintenant ouvert des grands centres commerciaux, des endroits où les gens se massent, et puis qu'à d'autres endroits, on ferme complètement.
Donc, là, ça vous félicitez de la fermeture des centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés, alors si je vous en...
Oui, parce que ça fait partie des endroits où, vous avez vu les images, images, il y a parfois même pas beaucoup de monde dans le magasin, mais à l'entrée du magasin à faire la queue pour rentrer, c'est...
Mais qu'est-ce que vous dites, Philippe Martinez, à ceux qui travaillent dans ces centres commerciaux, ces salariés, qui sont inquiets, qui disent « Bien oui, mais nous, on veut continuer à travailler parce qu'on pense que notre magasin, notre entreprise, elle ne tiendra pas, elle va faire faillite. »
Mais il y a donc des mesures économiques et sociales à prendre. Enfin, vous nous avez entendu, depuis le mois de mars, on dit « Il faut payer le chômage partiel à 100%. » À 100%, parce que il faut repréciser les choses. Ce sont les entreprises qui sont remboursées à 100%. Les salariés ne touchent que 84% de leur salaire. Par exemple, il faut des mesures qui prennent en compte la formation. C'est le moment de se former pour un certain nombre de salariés, ces périodes où on ne peut pas travailler. Donc il faut plus de sécurité dans l'emploi, plus de sécurité sociale professionnelle.
On va revenir sur ce qu'on peut faire de plus pour accompagner mieux les Français, les entreprises et les salariés, mais l'argument économique, il a pesé autour de la table du Conseil de défense, cet argument de dire que le confinement, c'est un coût économique majeur. Un mois de confinement, c'est 2 points de PIB, c'est 15 milliards d'euros par mois. Est-ce que vous êtes sourd à ces arguments du coût économique ?
Non, on n'est pas sourd, on n'est pas des imbéciles. Mais qu'est-ce qui est le plus important ? La vie ou l'économie ? Nous, on pense que c'est la vie.
Mais est-ce que les deux ne sont pas liés aujourd'hui ? Est-ce que l'économie dépend de votre vie beaucoup aujourd'hui ?
Non, parce que vous voyez les milliers, les dizaines de milliers de morts qu'il y a en France et dans le monde. Et on peut se féliciter que notre modèle social, si critiqué depuis le début du quinquennat et bien avant, ait quand même permettre d'amortir un certain nombre d'effets de cette crise sanitaire qui a des conséquences économiques. Donc oui, on n'est pas indifférent aux questions économiques, mais nous pensons que la santé doit primer, la vie doit primer. Enfin, tout le personnel de santé qui est principalement touché, mais on parlait des commerces depuis le mois de mars, ils sont en première ligne. Et on a vu les difficultés qu'ils ont eues pour avoir des masques, pour avoir des protections, pour avoir... des augmentations de salaire. Vous savez, les deuxièmes lignes, ils sont toujours payés comme il y a un an, malgré toutes les éloges qu'on a fait sur eux au niveau du gouvernement. Donc, il faut un équilibre, mais avec comme priorité la santé.
Si Marion Morgan. Justement sur les aides de l'État, est-ce que vous ne dites pas quand même aujourd'hui, l'État fait beaucoup, si on regarde les voisins européens, finalement, il y a d'autres pays qui font beaucoup moins. Alors, c'est peut-être pas parfait, mais est-ce que vous ne dites pas le chômage partiel et d'autres mesures pour aider les entreprises et les salariés, c'est déjà pas mal.
Nous disons que heureusement qu'on est en France et qu'on a un modèle social attaqué, mais qui permet le chômage partiel, il n'existe pas depuis un an. Hein. Mmh. Il existait déjà avant. Pardon, la sécurité sociale, ça existe depuis très longtemps.
Oui, mais là, les aides ont été généralisées.
D'accord, mais on s'appuie quand même sur des choses qui font l'originalité de notre pays et que beaucoup ont critiqué, dont le président de la République. L'assurance chômage qui est attaquée encore aujourd'hui, heureusement, qu'il y a une assurance chômage.
On va y venir, Fimane.
Oui, non, mais...
On va y venir, non, mais c'est un sujet important.
Mais
pardon, sur le...
On n'est pas aux États-Unis,
est-ce que vous adressez un satisfait site au gouvernement en disant, ben voilà, vous mettez en place ce quoi qu'il en coûte, c'est exactement ce qu'il faut faire.
On s'appuie d'abord sur la spécificité de notre pays, et après, il y a des aides, et qui ne vont pas forcément de façon équilibrée vers les salariés. Je vous ai parlé du chômage partiel. Les entreprises sont remboursées à 100%. Les salariés touchent 84%. Certains depuis des mois et des mois. Et quand on n'arrive pas à finir le mois avec 100% de son salaire, vous imaginez, enfin, la pauvreté, elle augmente dans ce pays. Je sais pas moi qui l'invente. Mmh. Donc, il y a besoin aussi de sécuriser un certain nombre d'emplois. Quand on voit ce qui se passe dans certaines entreprises, où aujourd'hui, c'est l'ingénierie, les chercheurs, les ingénieurs, qui sont licenciés, je pense qu'on reviendra sur l'exemple de Sanofi.
Oui, on y revient.
Comment on prépare l'avenir en virant, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ceux qui sont chargés de préparer l'avenir? C'est des vraies questions. Donc comment on sécurise ces emplois? Là, il y a un problème.
Et en vous entendant, on se dit toujours, Philippe Martinez, c'est Monsieur Plus. Il faut toujours plus. Est-ce qu'à un moment donné, on peut pas aussi dire, bah voilà, c'est déjà pas mal, 84% de son salaire dans d'autres pays. En Espagne, par exemple, on ne peut pas faire cela. Est-ce que il y a une certaine fierté de votre part que tout cela puisse se faire?
Mais oui, on est fiers de notre, du passé de la France et des conquêtes sociales en France. Oui, on est fiers. C'est pour ça qu'on les défend d'ailleurs et on veut les améliorer. Enfin, qui se bat contre la réforme de l'assurance chômage et pour améliorer la situation des jeunes, par exemple ceux qui sortent du bahut ou de l'université et qui se retrouvent sans rien, c'est nous, non? Donc on est fiers de notre passé social et on veut le développer. Mais il faut en même temps, parce qu'on est dans une crise inédite, on veut des choses, on veut que les choses s'améliorent. Et enfin, on peut toujours se comparer au plus mauvais. Enfin, on peut en trouver des pays dans le monde où ça va pas du tout. Je vous ai cité les États-Unis. Mais qu'est-ce qu'on vise? De dire, bah, on est moins pire que les autres? Ou on vise le meilleur? C'est un vrai débat.
Amélie Carrère.
Combien de destructions d'emplois vous craignez aujourd'hui? Le MEDEF avance le chiffre de 20-25 000 dépôts de bilan envisagés. Est-ce que vous avez
On a des chiffres parce qu'il faut il y a les grands groupes dont on parle et qui font la une de l'actualité. Et puis par exemple mes camarades de l'Hérault me disaient vendredi, j'étais avec eux, qu'il y a par exemple 1200 ruptures conventionnelles par mois. C'est 1200 chômeurs de plus. Voilà, c'est des chiffres comme ça qu'on a. Et puis je sais bien que dans les TPE PME, il y a, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de problèmes et beaucoup, toute la sous-traitance aéronautique, automobile, il y a des problèmes, mais on n'a pas de chiffres. Les précaires, on a estimé à 700 000 le nombre de précaires, intérimaires, saisonniers qui n'ont pas retrouvé de boulot qui n'ont pas eu de boulot suite à la première et deuxième
vague. Vous les chiffrez à des dizaines de milliers, à des centaines de milliers, non, dans ce que vous avez
comme prospect. Ça doit être plus des dizaines de milliers, oui. Déjà, c'est pas pour l'avenir, c'est déjà ça. Enfin, il y a des grandes entreprises qui, enfin, on va pas les citer de nouveau, mais Renault, Airbus, Sanofi, Bridgestone, enfin, il y en a beaucoup, hein.
Et vous craignez une explosion des plans sociaux après la fin de cette crise?
Mais si on ne fait rien, oui, ça va continuer, ça va même s'accélérer. Le problème, c'est que beaucoup d'entreprises, notamment les grandes, avec les répercussions sur les plus petites, ont profité de cette crise sanitaire pour restructurer, pour réorganiser. Et ça, c'est pas normal.
Il y a vraiment eu un effet d'aubaine. Pour vous, il y a eu une...
Qu'est-ce qui justifie que Sanofi supprime 400 emplois?
Eh bien, en fait, ils disent que c'est une réorientation sur des... il y a des secteurs qui ne marchent pas. Et ouais. Du coup,
bah, oui,
la chimie, donc ils vont sur les vaccins.
Il y a un secteur qui ne marche pas parce qu'on
a... de se restructurer dans
des... Il y a un secteur qui ne marche pas, ça c'est sûr, parce que c'est pas les premiers emplois qu'on supprime, c'est la recherche. Et le développement, puisque je crois qu'il y a un petit problème pour trouver le vaccin, non, me semble-t-il.
Si ce n'est que c'était des chercheurs spécialisés sur le diabète et d'autres pathologies que le coronavirus.
Il y a eu des milliers d'emplois supprimés chez Sanofi. On a pratiquement un plan de restructuration par an. C'est une entreprise qui touche des dizaines et des dizaines de millions en crédit impôt recherche, vous le savez très bien, je crois que c'est 100 à 120 millions par an. À quoi il sert cet argent public? Et je ne compte pas le CICE, les exonérations de cotisations et tout ce qui va avec. Donc on donne beaucoup d'argent à ces entreprises qui licencient. Et puis quand on nous parle de préparer l'avenir, de faire de l'innovation, bah, ils ne sont pas au rendez-vous.
Mais qu'on vous comprenne bien, Philippe Martinez, vous êtes pour l'interdiction des licenciements aujourd'hui dans cette période de crise?
Oui, oui, oui. Parce qu'on est à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Je vous dis comment on va préparer l'avenir, l'avion du futur, la voiture du futur, trouver des vaccins, si aujourd'hui on licencie ceux qui sont en charge de les...
Ce sont des départs volontaires chez Sanofi.
Je ne relèverai pas ça. Enfin, c'est des emplois en moins, on est d'accord?
Ce sont des départs...
C'est 400 emplois en moins, d'accord? Donc c'est 400 emplois perdus.
Une précision.
Moi, vous savez, les licenciements secs, mouillés, enfin, c'est des chômeurs de plus. Donc, il ne faut pas jouer sur les mots.
Vous dites à période exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Est-ce que vous allez jusqu'à réclamer une nouvelle taxe pour les revenus les plus aisés?
Oui, oui, il faut... Premièrement, il y a les mesures aujourd'hui. Par exemple, pas de dividendes aux actionnaires. Sanofi continue à donner de l'argent à ses actionnaires. Des milliards. Donc, pas de dividendes aux actionnaires. On le dit depuis le mois de mars, ça. Et tous les syndicats le demandent. Conditionnalité des aides, c'est-à-dire à quoi sert l'argent qu'on vous donne ou qu'on vous prête, parce qu'on peut prêter de l'argent pour augmenter les chèques qui servent au licenciement, mais ça, c'est pas pour créer de l'emploi. Donc voilà. Et puis, il faut préparer l'avenir. Il faut revoir la fiscalité. Il faut revoir les aides aux entreprises. Là aussi, à quoi ça sert?
Donc une économie très encadrée en temps de crise.
Et il faut qu'on sache où va notre argent.
Bah, presque étatisé, c'est-à-dire vous nous dites il n'y a
pourquoi
plus de liberté.
Non,
mais, si vous mais dites, c'est... si vous dites, si vous faites un contrat avec un truc, vous leur dites voilà ce que vous devez faire et c'est pour et dans ce cas-là je vous prête ou je vous donne de l'argent, mais du coup c'est plus de liberté de l'entreprise de gérer elle-même activité.
Mais quand on prête de l'argent, c'est pour un projet. Est-ce que licencier c'est un projet? Enfin sûrement que c'est un projet. Hein. Enfin, on ne peut pas cautionner ça, parce que c'est... Je ne comprends pas qu'il y ait des tas de débats sur l'utilisation des impôts, etc. Et quand on donne ou prête de l'argent aux entreprises pour licencier, là, ça serait normal, c'est la liberté. Enfin, vous savez, dans l'industrie du médicament, comment c'est financé avec les cotisations sociales? C'est bien la sécurité sociale. Quand vous allez à la pharmacie, c'est bien vous, avec vos cotisations, qui payez. Donc c'est de l'argent public.
Mais vous saluez quand même Sanofi qui va produire le vaccin Pfizer, vous dites c'est responsable et c'est une bonne décision.
On dit il était temps, parce que dans ce domaine, il ne devrait pas y avoir de propriété privée. Quand c'est l'intérêt du genre humain qui est en jeu, il ne devrait pas y avoir de propriété privée des vaccins.
Donc vous dites le brevet doit tomber dans le domaine public.
Bien sûr, tout de suite, rapidement. Tout de suite, rapidement, évidemment.
C'est pas rien ce que vous nous dites là, Philippe Martinez, c'est-à-dire mettre sous licence publique des vaccins qui appartiennent actuellement à des entreprises qui, certes, permettent leur profit, mais en même temps de fonctionner. Vous dites, tout de suite, on produit. Est-ce qu'on doit même le faire sans même leur autorisation? Est-ce que c'est-à-dire que on s'assoit un peu quelque part sur la législation pour produire?
Je vous ai dit, premièrement, que ces recherches, et il n'y en a pas assez pour la recherche publique, l'argent va beaucoup à la recherche privée. C'est d'un intérêt mondial, ces vaccins. Enfin, et puis on voit bien ce qui se passe aujourd'hui. La pénurie de vaccins, c'est quand même beaucoup la loi du marché qui décide qui en aura ou qui n'en aura pas. Vous trouvez que c'est normal? Parce que en France, on a déjà des problèmes pour en avoir, parce que d'autres, peut-être, ont payé plus cher ou ont trouvé d'autres arrangements. Mais vous pensez aux pays émergents, à l'Afrique? On condamne l'Afrique?
On permet à tous les laboratoires français aujourd'hui qui sont sur notre sol de produire librement les vaccins qui sont existants.
Sur un certain nombre de vaccins, et notamment celui-là, qui sont d'intérêt, je ne vous parle pas des aspirines, là, je vous parle de vaccins, eh bien, il devrait y avoir, les pays devraient se mettre d'accord si c'est d'intérêt public.
Est-ce que c'est une industrie de guerre qu'il faut mettre en place aujourd'hui?
Pardon?
Il faut une industrie de guerre aujourd'hui?
J'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas, il faut travailler pour le bien commun, le bien de l'humanité. C'est un virus mondial, il faut travailler pour le bien de l'humanité. Sans que personne ne soit oublié. Je vous le répète, il y a des. Je pense aux pays africains. S'il faut mettre le prix, ils ne sont pas prêts d'avoir le
prix. On va revenir sur la vaccination. Mais d'autres questions, quand même, encore très économiques. Amélie Carouer.
Vous parlez beaucoup de l'aide attribuée aux entreprises et aux contreparties, en somme. Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'on donne trop aux entreprises et pas assez, aux ménages, aux consommateurs, ne serait-ce qu'aux étudiants dont on parle de plus en plus? Est-ce que vous dites qu'on doit donner un peu moins aux entreprises aujourd'hui et prendre un peu de cet argent et le donner directement dans la main et dans la poche embauche des salariés, des consommateurs.
Évidemment, je vous ai parlé du chômage partiel, par exemple. J'ai eu l'occasion de le dire, l'augmentation, enfin, si on peut appeler ça comme ça, du SMIC, ouais. Parce que c'est les deuxièmes lignes, c'est scandaleux. C'est-à-dire des technocrates qui ont une règle à calcul. Le résultat, c'est 0,99. Ils n'ont même pas la décence d'arrondir à 1%. Même pas la décence. Et puis, il y a les primo-demandeurs d'emploi, c'est-à-dire ces jeunes qui sont sortis du bahut de l'université, qui arrivent sur le, comme on dit, le marché du travail, qui ne touchent rien, eux. Il faut que l'assurance chômage permettre de prendre en compte ces jeunes, oui, mais... parce que chercher du boulot, ça coûte cher. Les étudiants, hormis le fait, parce que là, il y a des situations d'urgence, oui, il faut qu'ils aient un revenu qui leur permette...
Vous êtes pour l'idée de Stanislas Guérini à la tête d'En Marche pour le prêt étudiant, justement, une somme de 10 000 euros qui serait remboursée bien plus tard.
Pourquoi un prêt? Enfin, dans d'autres pays, il y a des prêts, je pense aux États-Unis par exemple.
Donc,
prêts
vous
étudiants
êtes pour une enveloppe.
Et les étudiants sont obligés de rembourser toute leur vie quand ils le peuvent.
Et ça veut dire quoi? Un RSA jeune, cette forme?
Il faut une aide. Oui, on l'appelle comme on veut, mais il faut une aide aux jeunes étudiants. Le problème, ça c'est l'urgence, mais le problème c'est pourquoi? Quand on étudie, on est obligé de travailler pour payer ses études, pour se loger. C'est ça le problème.
Non, mais c'est-à-dire que vous me dites, Philippe Martinez, il faut donner 10 000 euros à tous les étudiants qui
le souhaitent. Non, j'ai pas dit de ça.
Alors dites non, ce qui est proposé par Stanislas Guérini, c'est 30 ans pour rembourser 10 000 euros dans la mesure où vous gagnez 1 800 euros brut par mois. Si jamais vous n'arrivez pas à cette somme, vous ne remboursez pas. En quoi cette idée ne peut pas convenir à la CGT?
En quoi on ne pourrait pas dire il y a une situation exceptionnelle? On l'appelle comme on veut, un revenu, une garantie étude ou comme on veut dans cette situation. Mais il faut se poser la question, enfin, il faut préparer l'avenir, se reposer la question, pourquoi quand on est à l'université, un étudiant sur deux est obligé de travailler pour se payer ses études, pour se loger, c'est ça? C'est ça qui est un problème, parce que moi, c'est ça qui génère aujourd'hui de plus en plus de pauvreté chez les étudiants, parce que comme l'emploi se fait rare, les saisonniers, ils n'ont pas pu travailler cet été, etc., ils sont
Et donc ça veut dire que pour les étudiants qui ne travaillent pas, qui n'aient pas de petit boulot, pour vous, on devrait pouvoir se passer de ça.
Soit on étudie, soit on travaille. Alors on peut faire des
et
petits boulots.
Et ceux qui le souhaitent
Pas de problème. D'accord. Mais moi, je vous parle d'être obligé de travailler. Il y a tout le monde, enfin, je pense que vous aussi, ça m'est arrivé de travailler l'été pendant mes études pour me payer mes vacances. C'est pas pour me payer mes études.
Vous comprenez, il n'y a pas d'argent magique. Est-ce qu'à un moment donné, on se dit, certes, là, l'État déploie de très grosses sommes, près de 400 milliards au total pour venir en aide aux entreprises et aux chômeurs aujourd'hui,
actuellement. Il y a des prêts dans ces 400 milliards.
Oui, il y a des prêts, vous avez tout à fait raison. Mais est-ce que, quelque part, si on vous entend parler d'augmentation du SMIC, les gens qui nous écoutent se disent, c'est d'abord ceux qui sont au chômage qu'il faut aider et préserver l'activité économique plutôt que d'augmenter le salaire de ceux qui ont déjà un travail.
Nous, on parle de meilleure répartition de ces richesses. On donne beaucoup aux entreprises. Évidemment, on est soucieux des privés d'emploi. On est soucieux. Mais il y a des salariés pauvres, vous le savez. Enfin, vous avez fait suffisamment de reportages sur le Secours catholique, le Secours populaire, les Restos du cœur, pour dire qu'il y a de plus en plus de monde qui y va, non? Enfin, je ne rêve pas. On les aide pas, ceux-là. C'est-à-dire qu'on gère la misère. C'est-à-dire qu'on peut tolérer des moins miséreux que d'autres. Il faut être un peu plus ambitieux que ça, on est au 21e siècle.
Amélie Carouer.
Alors, l'autre question qui est sur la table, c'est le télétravail. Oui. Le Premier ministre, quand il a pris la parole dans les mesures annoncées, c'est le renforcement à nouveau du télétravail. Pour être très simple, on n'est pas sûr d'avoir tout à fait compris votre position, Philippe Martinez. Est-ce que vous êtes favorable au télétravail, oui ou non, et dans quelle mesure?
Enfin, faut m'écouter, donc écoutez bien. Nous sommes favorables. Nous sommes favorables au télétravail, mais il faut que les règles soit précise. Et il y a besoin de règles, mais ce n'est pas que pour le télétravail. Il y a besoin de règles communes pour l'ensemble de ceux qui télétravaillent.
C'est-à-dire une journée, deux journées
par
semaine?
Non, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de qui fournit le matériel pour travailler. Nous, on pense que c'est l'entreprise. Qui est responsable en cas d'accident du travail à la maison? Parce que c'est du travail. C'est l'entreprise. C'est les mêmes règles que quand on va au bureau ou à l'atelier. Comment on protège, on donne du matériel qui protège les données informatiques. Parce que si vous travaillez à la maison sur un ordinateur qui n'est pas protégé et que vous travaillez sur des données confidentielles, qui va être licencié parce que l'ordinateur a été piraté? Comment c'est prévu? Comment sont prévues les indemnisations? Donc ça doit être la règle pour tout le monde. C'est pour ça qu'on demande des accords nationaux interprofessionnels. Après, dans la situation actuelle, nous, nous considérons qu'il y a besoin, ça ne peut pas être du télétravail en permanence.
Alors, il faut permettre aux gens de revenir. Une fois par semaine ?
Ça se voit.
Mais en même temps, vous nous dites en début d'émission, c'est la santé qui prime. Là, j'avoue que je ne comprends pas trop.
Premièrement, c'est la santé qui prime dans les circonstances que nous connaissons. Le télétravail, ça existait. D'ailleurs, il y a bien avant la Covid-19, vous le savez. Ça fait plus de 15 ans que ça existe.
Ça s'est imposé massivement, là.
Ça fait plus de 15 ans. Donc, il y a des mesures exceptionnelles. Et quand on est confiné, on est confiné, et on fait du télétravail, on ne revient pas au boulot. Nous avons souhaité d'ailleurs pendant le premier confinement qu'il y ait plus de salariés qui restent à la maison. On nous a dit, mais non, l'économie, etc. Aujourd'hui, on est dans une période exceptionnelle et donc ça se décide une journée. Ça me semble suffisant, mais dans la vie normale.
Qu'est-ce qui se passe à la CGT, pardon, très concrètement ? Est-ce que chez vous, dans votre centrale,
il y a un accord télétravail ?
Et c'est une journée par semaine de présentiel ?
C'est beaucoup mieux. On suit les consignes de la santé. Il y a eu, pendant une période, plus personne. Tout le monde était en télétravail. C'était au mois de mars. Puis après, quand on nous a dit que ça allait mieux, ça a été un jour ou deux. On a favorisé le fait que les salariés se voient, parce que c'est important pour bosser, le lien social c'est important.
Pour la vie normale, est-ce que le télétravail doit se généraliser ou est-ce qu'il faut reprendre une vie en entreprise pour que les salariés se voient, pour que les risques psychiques diminuent ?
Le télétravail doit être possible sur la base du volontariat, dans des conditions de travail qui sont où il y a des règles précises. D'une entreprise à l'autre, on ne peut pas... pour un, acheter son matériel, et pour l'autre, être fourni par l'entreprise. Je crois que c'est clair.
Amélie Carouer,
j'espère.
Compte tenu de cette société à bout, fatiguée, etc., est-ce que vous comprenez les actes de désobéissance civile ? On a beaucoup parlé, par exemple, de ce restaurateur dans le sud de la France qui a ouvert malgré tout. Est-ce que vous comprenez ces élans de désobéissance sociale et est-ce que vous pouvez même penser que ça va mener à une colère sociale ?
Premièrement, oui, je comprends que quand on est désespéré parce qu'on a sa petite boîte qui risque de fermer, etc., on cherche des solutions et la colère sociale, elle est là. Enfin, je vous écoutais tout à l'heure dire qu'il y a de l'inquiétude, mais l'inquiétude, elle s'exprime.
Elle reste silencieuse. Est-ce que vous imaginez un mouvement ?
J'ai pas eu le temps de vous amener la liste des salariés qui se mettent en grève. Enfin, déjà, la semaine dernière, vous avez vu, il y en avait pas mal. À EDF, par exemple, quand dans une entreprise, tous les syndicats se mettent d'accord et on atteint, malgré ou avec le télétravail, des taux de grévistes de 42%, je ne sais pas si c'est minime comme mobilisation, mais en tout cas, c'est important.
Mais vous craignez un printemps social, c'est la question que vous posez.
Moi, je ne crains pas, moi.
Vous êtes sûr ?
Non, mais je ne crains pas.
Je le souhaite
parce que on peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer comme ça avec des plans de restructuration et des chômeurs en plus, des salariés qu'on a applaudis.
Est-ce que c'est le seul moyen de lutter ? Est-ce qu'il n'y a pas une manière de réinventer manière de revendiquer aussi le monde d'après du syndicalisme
Bien sûr, il y a alerter, dire au gouvernement attention. Vous ne pouvez pas nier qu'on a demandé au gouvernement de dire « Vous avez applaudi les deuxièmes lignes, ça serait bien d'augmenter le SMIC. » Je vous expliquais comment ils l'ont fait. On a dit le chômage partiel, quand ça fait 8 mois, 9 mois qu'on est à 84%, vous pouvez me dire « c'est mieux que rien ». Enfin, quand on touche 1400 euros par mois, 84%, je ne sais pas. Moi, je gagne pas ça, mais je connais des gens qui gagnent ça et qui disent « on ne peut pas vivre ».
On revient sur tout cela dans la deuxième partie de ce grand jury de Philippe Martinez. À tout de suite.
Sur Amazon, des prix bas où vous voulez, quand vous voulez. Sur une barque.
C'est un super prix.
Lors d'une partie de pêche en mer.
C'est un super prix.
Oh oh, ça mord.
Ou même dans le ventre d'une baleine.
C'est vraiment un super prix.
Amazon, des prix bas où vous voulez, quand vous voulez.
Bonjour, c'est moi Ramsès, le chat blanc de Feu Vert. Je sais pas vous, mais moi, j'ai jamais eu autant envie de me dégourdir les pattes. Alors un conseil, passez chez Feu Vert. En ce moment, pour l'achat de pneus Continental été ou 4 saisons, la pause est à moitié prix. Oui, moins 50% avec le leader européen du pneu tourisme. C'est ça, la patte de l'expert.
Offre soumise à la pause, voire sélection et conditions sur faver.fr.
Écoutez et traduisez. This is the jour J.
C'est le grand jour.
Horses are very bogus.
Les chevaux sont magnifiques.
The favorite looks sure potatoes.
Le favori a l'air en forme.
The cow. I won 3 million at PMU.
La vache, j'ai gagné 3 millions au PMU.
Pas besoin d'être bilingue pour gagner au prix d'Amérique. Dimanche 31 janvier, tirelire exceptionnel de 3 millions d'euros au Quintet Plus. PMU, que les meilleurs gagnent. Voir conditions en point de vente PMU. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Boulanger.
Chez Boulanger, nous sommes plus que jamais à vos côtés, même après 18h. Pour vous renseigner et acheter à distance, contactez-nous au 30 11, numéro gratuit, du lundi au samedi de 8h à 22h. Alors, contactez vite le 30 11. Retrouvez également tous nos produits sur boulanger.com et privilégiez le drive sans contact.
Boulanger, si bien ensemble.
RTL, il est midi et demi. Un point sur l'information avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Pour se déplacer en dehors de l'Union européenne, il faut désormais un motif impérieux avec une nouvelle attestation. Ça fait partie des mesures annoncées par le Premier ministre pour éviter un troisième confinement. Autre décision majeure, la fermeture des grandes galeries commerciales hors alimentaire à partir d'aujourd'hui. C'est une bonne chose, selon Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT et l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Il y a des mesures économiques à prendre. Il faut un chômage pris en charge à 100%. Je cite. Philippe Martinez estime en revanche qu'il y a un besoin de lisibilité dans les décisions du gouvernement qui sont parfois contradictoires depuis le mois de mars, dit-il. Il faut toujours faire passer la santé avant tout, y compris la santé liée au confinement, martèle le secrétaire général de la CGT. Le moindre jour de confinement qu'on peut éviter aux Français, il faut qu'on le prenne, estime de son côté le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Il annonce des contrôles renforcés pour le couvre-feu à 18h. 9 personnes mises en examen après l'agression de Youri à Paris, dont 5 pour tentative d'assassinat. Le collégien de 15 ans avait été violemment tabassé dans la soirée du 15 janvier dans ce qui semble être un règlement de compte entre bandes rivales. La vidéo de son agression avait suscité beaucoup d'émotions. La préfecture de police de Paris ouvre une enquête interne après la vidéo d'un commissaire. Il a été filmé hier en train de matraquer un manifestant à Paris lors du rassemblement contre le projet de loi sécurité globale. Encore plus d'un millier d'interpellations en Russie, la police a fermé l'accès au centre de plusieurs villes, dont la capitale Moscou, alors que les soutiens d'Alexei Navalny appellent encore à manifester aujourd'hui pour réclamer sa libération. Le principal opposant à Vladimir Poutine, qui est incarcéré depuis son retour d'Allemagne. 18 supporters toujours en garde à vue au lendemain des incidents à la commanderie. Le propriétaire de l'OM, Frank McCourt, va même jusqu'à faire le parallèle avec la prise d'assaut du Capitole aux États-Unis. Le centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille a été assiégé hier par 300 supporters. Bernard Tapie, l'ancien président emblématique, appelle au calme, même s'il dit comprendre la colère, tout en invitant la direction de l'OM à se remettre en cause. Conséquence de ces événements, le match prévu hier soir entre Marseille et Rennes a été reporté. 7 rencontres au programme ce dimanche, à commencer par Nice-Saint-Etienne à partir de 13h. Ensuite, Angers-Nîmes, Brest-Metz, Lorient-PSG, Strasbourg-Reims, Lille-Dijon et puis ce soir Nantes-Monaco dans RTL Foot à partir de 20h. Et puis le handball, après avoir été battu en demi-finale, l'équipe de France va affronter l'Espagne cet après-midi pour tenter de remporter la médaille de bronze. Petite finale à suivre à partir de 14h30. Dans un instant, Benjamin Sportouche, la suite du grand jury.
Bonjour, c'est Michel Simès.
Parlons vaccin, Michel Simès.
Dans Parlons vaccin, mon nouveau podcast, je vous parle de vaccin. Et oui, cette semaine, zoom sur les indications et les contre-indications de ce vaccin. Parlons vaccin, c'est sans ordonnance et à tout moment sur rtl.fr et drgood.fr.
Retrouvez dès maintenant Parlons vaccin, le podcast de Michel Simès avec RTL et Dr Good.
Les moteurs e-tech hybrides sont nés chez Renault grâce à notre expertise en F1. Il a fallu des mécaniciens comme Alain, des ingénieurs comme Emma ou des pilotes comme Fernando pour concevoir la technologie Renault e-tech. Venez découvrir dès maintenant Renault Clio hybride et profitez aussi de Clio en version essence à partir de 129€ par mois avec 4 ans d'entretien et garantie inclus.
Pour Clio Life SE 65 LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer de 1 700€. Offre sous condition de reprise jusqu'au 31 janvier si Accordiac, voir Renault.fr.
Suite du grand jeu.
jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Marion Mourgue du Figaro et Amélie Carrère de TF1 LCI qui va vous poser et qui revient sur le confinement. Si confinement il y a, quelle forme il doit prendre, Amélie?
Alors, confinement comme le mois de mars, comme à l'automne. En gros, aussi, la grande question, c'est de savoir si on laisse les écoles ouvertes ou fermées. On connaît l'impact que ça a sur la vie des enfants, mais des parents, des travailleurs.
Oui, enfin, je vous le redis, je ne suis pas le mieux placé pour parler des mesures sanitaires à prendre. Moi, je fais plutôt confiance aux médecins, aux scientifiques. Je reste modeste. On a vu les conséquences que ça pouvait avoir sur les enfants, mais les étudiants hein, qui n'ont pas vu une salle ou un amphi depuis très longtemps. Donc oui, il faut regarder tout ça. Mais par exemple, on pourrait, dans cette période-là aussi un peu compliquée, imaginer l'ouverture de d'autres salles pour faire les cours.
Lesquelles, par exemple, à quoi vous...
J'en sais rien.
Ça veut dire plus de personnel, ça.
Mais oui, mais vous savez que ça fait quelques années qu'il manque, que les étudiants et les profs râlent. Ils étaient encore dans la rue cette semaine, pour dire on manque de moyens, on manque d'effectifs. Les amphis bondés, c'est pas nouveau, non. Enfin, tout. Là aussi, enfin, on a l'impression que tout ce qu'on disait avant, tout ce que les citoyens, les salariés disaient avant, on le découvre aujourd'hui.
Bah, le président de la République en a pris conscience quand même, non?
Ah bon?
Non, vous trouvez pas? Le quoi qu'il en coûte, tout ça, c'est pas un changement d'état d'esprit ou du président de la République qui s'adapte?
En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que le président de la République a applaudi, a parlé des deuxièmes lignes, a dit j'arrête les petites phrases, etc. Et puis, on a eu les 60 millions de procureurs, j'en fais pas partie d'ailleurs.
C'est-à-dire, vous faites partie des procureurs, 66 millions de procureurs.
Oui, bah, comme vous, non? Bien, c'est la population française. Ce que je constate, c'est, je vous l'ai dit, les deuxièmes lignes n'ont pas été augmentées, que à l'hôpital, on ferme encore des lits. Oui. Donc, il y a ce qu'ils disent, puis la réalité.
Et
il y a la réalité. Donc, ce que je voulais dire, c'est que oui, on peut imaginer des salles de cours différentes, aménager des gymnases, pourquoi pas, pour faire des cours pour les étudiants, j'en sais rien. Mais il faut faire preuve d'imagination, d'originalité. Alors effectivement, il faut des moyens. Il faut des profs supplémentaires, il faut du personnel technique, administratif supplémentaire. Mais ça, c'est pas nouveau.
Mais quand le président de la République dit 66 millions de procureurs, comme on dit 66 millions de sélectionnaires de l'équipe de France, est-ce qu'à un moment donné, voilà, c'est pas aussi, il traduit pas aussi ce côté un peu latin que nous avons d'insatisfaction permanente?
Enfin, en tout cas, c'est les petites phrases qui énervent. Enfin, faut un peu de hauteur, me semble-t-il. J'ai jamais été président de la République, mais faut un peu de hauteur quand on est président de la République. Et plutôt que d'attiser les problèmes, eh bien, il faut rassembler. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il a beaucoup parlé. Il parle beaucoup, mais dans les actes, il y a moins de choses.
Est-ce que vous trouvez aussi que dans sa manière de gouverner, il va trop loin dans l'utilisation, Emmanuel Macron, du Conseil de défense? On l'a encore vu vendredi soir. Il a été réuni de manière urgente pour prendre les décisions. Est-ce que ça va trop loin?
C'est la conception de la concertation du gouvernement. C'est-à-dire qu'on vous appelle la veille, dans le meilleur des cas, ou un quart d'heure avant, dans le plus mauvais des cas, pour vous dire... Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Puis on fait ce qu'on a décidé. Donc oui, beaucoup de choses se passent au Conseil de défense, que ce soit en matière économique, santé, etc. J'aimerais, par exemple, je me demande à quoi servent les députés en ce moment.
Et justement, les syndicats ont été associés vendredi. Est-ce que le Premier ministre vous a donné des clés ce jour-là, ou au contraire, c'était une négociation Potemkin?
Ni une négociation, ni une consultation. Enfin si, on peut appeler ça une consultation. C'est en gros, qu'est-ce que vous avez à me dire? Et puis le lendemain... Le soir même, il a fait ce qu'il avait décidé, enfin, ou ce que le président de la République. Mais ça fait un moment qu'on dit. Alors, quand on vous dit ça, vous dites, oui, mais la CGT, vous êtes jamais content, etc. Mais j'ai entendu les restaurateurs dire ça, les maires, les élus dire, oui, on nous appelle pour nous demander notre avis, mais ils font ce qu'ils veulent. J'ai entendu les professionnels de la montagne dire la même chose. Donc, vous voyez, il n'y a pas que la CGT qui dit ça.
Mais Jean Castex vous appelle toujours pas? Vous disiez qu'il vous avait pas appelé depuis ou très peu depuis
qu'il a été
Premier ministre.
Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je ne l'avais pas vu en bilatéral depuis le mois de juillet.
Et
je le vois mardi.
Et vous lui direz?
Si je vous le dis à vous, il va râler parce que je. Je vais lui dire ce que je viens de vous dire depuis une demi-heure. Voilà, c'est la santé, la vaccination, comment on fait, et puis comment on prépare l'après. Il y a les réalités d'aujourd'hui, les urgences, les étudiants, le salaire, le chômage partiel, et puis demain, comment on prépare ? Qu'est-ce qu'on fait pour relocaliser les productions ? Comment on empêche de fermer les usines ? On se bat à la CGT parce qu'on se bat pour non seulement préserver des emplois, mais pour les développer. La Chapelle d'Arblay, une usine de retraitement du papier pour qui conjugue industrie et environnement. Ça fait un an que ça dure. On bosse, nous, la CGT, on bosse, et puis on a un gouvernement qui tergiverse. Luxfer, les salariés de Grand Puits, vous disiez, il n'y a pas de grève. Eh ben, vous savez que les salariés de Total Grand Puits sont en grève depuis maintenant, me semble-t-il, 4 semaines. Ils réfléchissent sur l'avenir de leur raffinerie. On les aide ou on laisse supprimer des emplois? Vous voyez, on a des tas d'exemples, et je peux les multiplier. La CGT se bat pour une filière d'industrie d'imagerie médicale. Ça fait 10 ans qu'on se bat pour ça. Imagerie médicale, c'est l'avenir ou c'est pas l'avenir ? Qu'est-ce qu'on attend pour mettre des moyens là-dedans ?
Sur la radiographie, Marion Monge.
On parlait de vaccination dans la première partie de l'émission. Vous étiez donc pour une licence publique des brevets. Est-ce que vous dites aujourd'hui, il faut que l'État français puisse commander directement aux laboratoires des doses de vaccins sans passer par l'Union européenne pour gagner du temps ?
Je ne sais pas, je ne pense pas. Ce que je vous dis, c'est que il faut arrêter que ça soit on donne les vaccins aux plus offrants. Voilà. Donc si c'est les États, vous avez bien vu pour les masques.
Donc une commande au niveau européen vous semble une bonne idée.
Mais oui, mais c'est le problème est pas là, c'est que
vous voulez la libre licence, même vous nous avez dit en début d'émission.
Oui, mais évidemment, mais vous avez vu pour les masques où il y avait des pays qui venaient payer leurs masques sur le tarmac à la sortie des avions. Mais où on va ? On va faire la même chose. Donc, parce que, on l'a vu aussi, des régions vont dire, alors les plus riches, en France, vont dire, mais moi, je vais acheter directement des vaccins, au détriment, et puis des départements.
Enfin, les régions veulent le faire de manière collective.
Et bien, pourquoi on ne le fait pas au niveau européen ? Mais le problème, c'est qui décide de combien ? Enfin, il faut qu'on ait les vaccins en quantité suffisante. Enfin,
ce qu'on retiendra, c'est cette libre licence, et c'est pas rien,
pour
c'est
avoir, un sujet de pour débat. Pour avoir des vaccins en quantité suffisante. Voilà. C'est pas moi qui ai fourni les chiffres de vaccination étape par étape. On voit bien qu'on va être loin de répondre à ce qu'a dit M. Véran il y a quelques jours sur on sera tous vaccinés. Enfin, là, on est déjà à la bourre, hein, parce qu'une vaccination, c'est deux vaccins. Une vaccination, c'est deux vaccins.
C'est possible, vous êtes pour une vaccination en entreprise ? Ouais. Comme pour la grippe.
Bien sûr, à condition, là aussi, qu'il y ait des médecins. Or, vous savez, la médecine du travail va très mal. Il y a moins, qu'il y ait des infirmières, qu'il y ait du personnel pour le faire. Et puis, qu'on respecte le secret médical. Parce que, faut pas que ce genre de choses, que ce soit pour les maladies, mais aussi la vaccination, ça soit matière à discrimination. Vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez plus le droit de bosser, par exemple.
Ça vous a surpris que le ministre de la Santé ne soit pas suivi dans ses préconisations ? Il nous a dit toute la semaine que le couvre-feu n'était pas suffisant. Et puis finalement, la République fait autre chose.
Je ne me mets pas des débats au sein du gouvernement, ça devrait être... Moi, nous, à la CGT, on fait des propositions. Après, les débats internes, ça les regarde.
Donc, il n'y a pas de dissension pour vous au sein du gouvernement et le ministre de la Santé n'est pas fragilisé.
J'en sais rien, c'est vous le journaliste, c'est pas moi.
On me pose la question. Amélie Carouer.
Il y a des sujets de société très profonds, quasi éthiques. Ce sont les mots d'ailleurs de Jean-François Delfrécy qui a remis le sujet dont je vais vous parler sur la table. C'est de savoir si on doit encourager les personnes les plus âgées, nos aînés, les plus fragiles, à s'auto-confiner, à se mettre un petit peu de côté pour permettre aux plus jeunes de retrouver un peu de liberté, de marge de manœuvre. Pour vous, c'est un sujet tabou et qui doit le rester, où effectivement il faut avoir le débat et vous y soyez même en faveur, pourquoi pas ? Je vous pose la question.
Non, je ne crois pas. Enfin, nous, on fait confiance à l'intelligence collective. On donne les moyens, évidemment, de pouvoir le faire, tout le monde fait attention à sa santé. Et donc, si on dit un certain type de population, personnes vulnérables, personnes d'un certain âge, faites attention, je fais confiance. Mais alors, on leur donne aussi les moyens. Il faut que des services sociaux soient plus présents auprès des personnes âgées. Il faut que ça se passe mieux dans les EHPAD où il manque de personnel. Il manquait déjà avant la Covid. Il n'y en a pas plus aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut faire confiance à l'intelligence collective. Oui.
Donc, dans le fond, vous n'êtes pas contre cette idée si elle est bien accompagnée ?
Non. Je vous dis que oui, il faut prévenir, il faut alerter encore plus les personnes d'un certain âge, les personnes vulnérables, que la meilleure solution pour eux, c'est le confinement. Mais par exemple, comme on l'a évoqué tout à l'heure, le confinement pour des personnes âgées seules, c'est très difficile à vivre. Eh bien, comment on met en place des services sociaux qui vont les voir, qui viennent discuter avec eux, qui les aident
sans
dans leur quotidien.
Obligatoire, quoi. Sans
faire. Quand vous entendez le ministre de la Santé, Olivier Véran, dire que le personnel soignant tient, finalement, qu'il reste, malgré la fatigue et l'angoisse, sur la route, vous dites quoi? Il va trop loin pour... il ne comprend pas la situation?
Je dis à quel prix ils prennent plus de vacances, il y a des dépressions, il y a des malades, ils viennent travailler parce que ils peuvent pas faire autrement malgré qu'ils soient qu'à contact. Les congés non pris s'accumulent. Enfin, je veux dire, c'est
il y a un droit de retrait qui est exprimé parmi vos.
Il y a une colère, mais personne n'exerce un droit de retrait par plaisir. Et c'est comme le droit de grève. Mais vous savez que dans les hôpitaux, vous savez ce que ça veut dire, un droit de retrait. Enfin, ils sont pas, c'est pas des imbéciles. Enfin, c'est pas des fous. Leur mission, c'est de soigner des gens et de les sauver. Et je pense que le gouvernement, justement, abuse de ce sens du travail pour leur dire calmez-vous, tout va bien, etc. Enfin, la situation devait être réglée cet été après le Ségur de la santé. Bon,
Amélie Carrère.
Je crois que la colère, elle est toujours là et elle est justifiée.
Pour relier la conversation sur la vaccination et les soignants, est-ce qu'il faut changer les priorités, renforcer la priorité dans la vaccination des soignants, prioritaire, quel que soit l'âge? Est-ce que c'est ce que vous demandez?
Il faut, à condition qu'on ait les doses. Parce que là, on gère la pénurie pour l'instant. Mais oui, il faut que les soignants soient protégés. Oui, c'est eux qui sont en première ligne, c'est le cas là, pour reprendre des formules du président de la République. Donc oui, mais pour l'instant, le problème, c'est les doses.
Et est-ce que, en même temps, vous allez nous, je le disais en début de cette émission, vous lancez un appel à une manifestation contre la précarité pour le maintien des services publics jeudi? Un nouvel appel à mobilisation. Est-ce que c'est vraiment le moment de le faire? D'abord, on est en pandémie, ça peut être dangereux. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'action que la rue?
Alors, premièrement, on a un mouvement sur l'emploi. Et derrière l'emploi, c'est un emploi de qualité. Les salaires, c'est sur le chômage, enfin. Contre la réforme de l'assurance chômage pour une autre réforme, pour la sécurité sociale. Donc derrière l'emploi, il y a plein de choses. À chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est pas le moment. Enfin, on va dire à tous ceux qui perdent leur boulot, c'est pas le moment de se battre pour garder votre boulot. On va dire à tous ceux qui vont à la soupe populaire, c'est pas le moment de revendiquer des salaires pour vivre dignement. C'est quand le moment?
Marion Mourgue.
Vous insistez sur cette colère qui s'exprime dans la société. Est-ce que vous craignez que d'autres drames, comme celui qu'on a connu à Valence, où une agent Pôle emploi a été tuée, et une DRH aussi, est-ce que vous craignez que ce genre de drame se multiplie?
C'est toujours... Il y a une procédure en cours, hein, donc c'est toujours avec beaucoup de retenue qu'il faut s'exprimer. Mais enfin, en écoutant les agents de Pôle emploi, ils alertent depuis longtemps sur... le manque d'effectifs pour s'occuper, enfin, des privés d'emploi, la violence, parfois dramatique comme celle qu'on vient de vivre, mais la violence verbale, etc. Et puis, une volonté de se dire, j'insiste là-dessus, peut-être qu'avec le numérique, ça ira mieux. Enfin, quelqu'un qui est en détresse sociale, on va lui proposer de discuter avec une machine ou avec un ordinateur. Enfin, ce fameux lien social qu'on... on a l'impression de redécouvrir, il est important tout le temps, notamment pour les personnes en détresse. Et quand on est au chômage, on est en détresse. Eh bien, il faut des salariés, des agents de Pôle emploi qui écoutent.
C'est le manque de personnel qui, pour vous, est à l'origine de ce drame.
Non, vous faites des raccourcis.
Non, mais j'essaie de comprendre, non, qu'il n'y a pas assez d'effectifs.
Vous faites des raccourcis. Je vous dis qu'avec toute la retenue nécessaire pour ce genre de drame, ce n'est pas nouveau que les agents de Pôle emploi disent « il y a de plus en plus » d'agressions verbales, physiques, parce qu'on est jugé, premièrement, eux se disent qu'ils sont jugés responsables du chômage, ce qui est loin d'être le cas, et qu'ils ne sont pas assez nombreux pour s'occuper bien des privés d'emploi.
Philippe Martinez, en attendant que ces problèmes de fond soient réglés, est-ce qu'il faut renforcer la sécurité des agents, mais de la renforcer
Me semble-t-il, c'est ce que demandent les agents. Même si, heureusement et fort heureusement, ces drames sont exceptionnels, mais c'est éprouvant, la violence verbale, la violence physique, et donc il faut des mesures. Mais il faut déjà réfléchir. Enfin, je pense que c'est ça le rôle du gouvernement, de réfléchir à l'avenir. C'est-à-dire ne plus fermer les yeux sur tous les problèmes qui existaient déjà avant la Covid et pas faire la politique de l'autruche. Parce que on peut se dire, après cette pandémie, que nous souhaitons la fin la plus rapide possible, eh bien on va recommencer comme avant.
Très rapidement, avant de passer à la question express, votre collègue Laurent Berger propose une réunion tripartite pour proposer justement ce monde d'après au gouvernement. Une réunion tripartite avec vous, les syndicats, le patronat et l'État. Vous dites banco, vous êtes prêts à y participer? Mais
nous l'avons demandé depuis fort longtemps. On a fait des propositions fournies au gouvernement.
Vous participerez à ce genre, une sorte de sommet social
à Matignon. À condition que par principe, le gouvernement ne dise pas « ça, c'est pas possible ». Ouais, la réduction du temps de travail, on nous dit « non, c'est pas possible ». Pourquoi on n'en discute pas? Surtout dans la période.
Vous me faites la liaison parfaite pour Question Express.
Je le savais, merci.
Le grand jury, Question Express.
Alors, pour ou contre, Philippe Martinez, le passage de 35 à 32 heures par semaine?
Pour. Surtout dans la période. Quand les commerces ferment à 18 heures, il faut avoir du temps pour y aller avant.
Pour ou contre un revenu universel?
Non, contre.
Contre. Pour ou contre la fin de la fabrication de la mythique Twingo, vous qui avez été chez Renault?
Contre.
Vous voulez que ça continue?
Bien sûr. Petite voiture populaire qui consomme pas beaucoup.
Très important, votre réponse, elle sera certainement relevée. Pour ou contre la dissolution de Génération Identitaire?
Pour.
Pour ou contre une charte de la laïcité pour les associations en échange de subventions, c'est ce qu'annonce Marlène Schiappa ce matin dans le cadre de la loi sur le séparatisme.
J'ai pas eu le détail, en tout cas, on peut pas. La laïcité, ça ne s'achète pas. Ça existe et donc ça doit se respecter. Il n'y a pas besoin, comme essaie de le faire le gouvernement, de faire des lois ou des mesures qui d'abord stigmatisent une religion et certains Français d'origine musulmane.
Donc cette charte de la laïcité, est-ce que si jamais on vous demande, vous, de CGT, de la signer, est-ce que vous la signeriez?
Non. La laïcité, tout le monde sait ce que c'est. Il y a une loi. Il n'y a pas besoin de renforcer un certain nombre de choses qui visent d'abord, je le répète, à stigmatiser des Français qui pratiquent la religion musulmane.
C'est dit et ça sera certainement commenté. Pour ou contre, Philippe Martinez, la tenue d'un référendum sur le climat?
Qu'est-ce qu'on pose comme question? Faut-il sauver la planète?
Faut-il l'inscrire dans l'article 1 de la Constitution?
Non, parce qu'il faut des mesures concrètes. Pas l'inscrire dans la Constitution. Il y a déjà dans l'article 1 cette question-là. Donc il faut des mesures concrètes. Je vous ai cité un exemple d'entreprise qu'il faut à nouveau ouvrir, embaucher, parce que c'est du recyclage de papier.
Contre, donc. Pour ou contre une dose de proportionnelle pour les prochaines législatives?
Dans les entreprises, les élections sont à la proportionnelle. Voilà ma référence pour les syndicats.
Bon, et enfin,
il n'y a pas de tour.
Donc oui, plutôt.
Pourquoi une dose?
Il faut la totalité. Une proportionnelle totale.
Pourquoi une dose?
D'accord, la proportionnelle. Et pour ou contre, enfin, l'augmentation du nombre de trimestres pour obtenir sa retraite plutôt qu'une réforme?
Une réforme, mais pas celle que nous proposait le gouvernement.
Une augmentation du nombre de trimestres, comme ce fut le cas avec la réforme Touraine.
Oui, on était contre la réforme Touraine et on n'a pas changé d'avis. Vous savez, si on veut libérer de l'emploi, je ne vois pas pourquoi ceux qui ont du boulot continueraient à travailler jusqu'à 65 et 67 ans. Ce n'est pas comme ça qu'on va régler le chômage.
Donc on ne parle pas de retraite d'ici 2022. Enfin, en tous les cas,
La
retraite à 60 ans.
Oui, on n'a pas changé d'avis non plus.
À 1800 euros, la retraite à 60 ans. Marion Mourgue.
Un dernier sondage, Harris, vient de donner Emmanuel Macron et Marine Le Pen au coude à coude pour 2022. En cas de duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, vous votez quoi?
Les sondages, faut s'en méfier. On va pas se prononcer plus d'un an avant sur ce qui va se passer. Si y avait des gouvernements successifs qui travaillaient vraiment sur des solutions pour les citoyens en France, on n'aurait pas le Front National au deuxième tour. C'est sur le désespoir et la misère sociale s'alimente ce
parti. Préciser, relancer un petit peu cette question-là. En 2017, dans ce cadre-là, vous aviez appelé à ce que Macron fasse le plus haut score possible. Est-ce que vous referiez la même chose dans le même contexte?
On avait surtout dit, attention, c'est la deuxième fois que le Front National est au deuxième tour. Il ne faut pas nous refaire le coup, c'est-à-dire qu'il faut agir sérieusement pour que ce parti ne se nourrisse pas de la misère des citoyens pour culpabiliser, comme ils le font actuellement, par exemple, ceux qui viennent travailler dans notre pays, qui ont du travail,
mais
qui ont un contrat.
Vous pensez que la victoire de Marine Le Pen est possible? Parce que dans vos rangs, certains vous disent, bon, ben, ça peut être aussi une alternative.
Mais la CGT, elle n'est pas hermétique au mot de la société. Oui, il y a des syndiqués de la CGT qui s'interrogent, qui votent Front National. Et nous, notre rôle, c'est de leur dire, c'est pas la solution.
Ils sont de plus en plus nombreux.
On ne fait pas de statistiques de ce point de vue-là.
Question nette.
Le grand jury. Question nette.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous. Bonjour Philippe Martinez. Les internautes veulent vous entendre sur le sujet de la RATP. La RATP verse à ses salariés quelques 311 primes et selon un rapport de la Cour des comptes, certaines primes sont complexes et onéreuses. Donc il existe par exemple une prime pour l'utilisation d'un ordinateur et une autre pour l'usure anormale des chaussures. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire un ménage dans ces primes ?
Je ne connais pas en détail les primes versées à la RATP. Je pense, contrairement à ce qu'on peut dire, qu'ils ne les touchent pas les 311 en même temps. Parce que là aussi, il faut...
Est-ce qu'il faut refaire un tri quand vous avez, des primes sur l'utilisation d'un ordinateur ?
Je ne connais pas le détail de ces primes. En tout cas, il y a des primes, comme dans toutes les entreprises, qui sont justifiées. Il y a des primes de nuisance. Il y a des primes de nuit, il y a des primes de repas,
il y a... Ah là, il y en a une, par exemple, pour attraper une souris. Enfin, je veux dire, est-ce que vous ne pensez pas, à un moment donné, qu'il n'y a pas des primes incongrues qui devraient être levées et peut-être tout en compensant au niveau salarial?
Je vous assure, je vais me pencher sur les primes à la RATP et les autres...
À interpeller, cette
semaine. Oui, d'accord, mais la Cour des comptes, déjà, a beaucoup de parti pris.
Anti-syndical ? Anti-travailleur ?
Anti-social, on va dire.
Antisociale, la Cour des comptes ?
Oui.
Vous trouvez dans que les enquêtes ne sont pas objectives ?
Dans un certain nombre de rapports, il y a du parti pris. Je le vois sur les dépenses sociales, considère qu'il y a trop de dépenses sociales. Bon, c'est un parti pris. Donc je me méfie, mais je vous promets d'étudier les primes à la RATP et ailleurs. Je reviendrai quand vous m'inviterez, on fera une émission spéciale prime.
Marie-Pierre Haddad.
Oui, autre sujet, votre antenne de la CGT, donc Philippe Martinez de l'hôpital Hôtel-Dieu à Paris, accuse la mairie de Paris donc de faire vacciner son personnel non prioritaire. Et la mairie de Paris, elle dénonce des accusations diffamatoires et elle évoque un partenariat avec l'AP-HP pour justement vacciner son personnel prioritaire. Cette histoire a beaucoup agacé les internautes. Est-ce que vous maintenez vos accusations contre la mairie de Paris ?
Je peux pas vous répondre. Je ne connais pas en détail tout ce qui se passe dans les hôpitaux.
Ah, quand même, c'est votre antenne CGT.
L'Hôtel
Dieu qui fait ses dénonciations. C'est pas rien de dire qu'il y a des passe-droits.
Il y a 650 000 syndiqués à la CGT. D'accord ? Avec pas tous des comptes Facebook ou des comptes Twitter. Mais enfin, je passe pas ma vie à.
Cette affaire, elle n'est pas remontée jusqu'à vous ?
Non. Donc je vais regarder ça aussi. Il ne devrait pas y avoir de passe-droit. Donc je vais vérifier s'il y en a ou pas. Nous, notre position, c'est que tous les personnels soignants devraient être vaccinés en priorité. Ça, c'est clair.
Ça, c'est dit. Marie-Pierre Haddad.
Oui, la plateforme de livraison de repas Just Eat va embaucher 4500 coursiers en CDI en 2021. Donc comme quoi, l'ubérisation peut avoir du bon d'après vous ?
Il faut ce que je vois, c'est que les livreurs à vélo veulent des garanties collectives. C'est-à-dire qu'il y a la notion d'indépendance, mais en même temps, ils veulent des garanties collectives. Parce que est-ce que vous savez qu'ils sont payés au lance-pierre ? Est-ce que vous savez qu'ils n'ont pas de protection sociale ?
Est-ce que là justement, c'est un bon exemple ?
Mais c'est un CDI, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Si un CDI de gré à gré, ils veulent des garanties collectives. Donc nous nous battons, d'ailleurs avec les salariés, je ne veux pas faire de la pub, mais d'autres plateformes pour avoir des droits collectifs, salaires, protection sociale, chômage,
toute
etc.
Dernière question très rapidement.
Oui, un internaute vous suggère de, pourquoi pas, baisser temporairement les salaires pour pouvoir faire face à la crise, que ce soit dans les petites et les moyennes entreprises. Est-ce qu'il faut accepter d'en passer par là, d'après vous ?
Non. Non, bon. Non, parce que ou alors vous demandez aux grands patrons du CAC 40, peut-être que ont les moyens de baisser leur salaire.
Vous appelez les patrons du CAC 40 à baisser leur salaire.
C'est quand on gagne des centaines de millions, quand on est milliardaire. Je sais pas ce que ça peut représenter, mais un milliard de moins, ça doit pas vous obliger à coucher sous les ponts, non ?
Merci beaucoup. Merci à vous. C'était votre grand jury. Vous pouvez retrouver cette émission sur l'application RTL et sur vos plateformes préférées, bien sûr. Très belle semaine. Merci à toutes les trois. À la semaine prochaine.